Chapitre 15. T'essayes de craquer mes fichiers, fils ? Demanda le Tréplat. T'étais en céphalo zéro, 5 secondes.
Bouge pas, dit Kez, et il écrasa l'inter du Simstim.
Elle était tapie dans l'obscurité, accroupie, les paumes contre le béton rêche.
Kez.
L'affichage pulsait son nom en caractère alphanumérique.
Me divers l'informait de l'établissement de la liaison.
Malin, fit-elle. Elle oscilla sur les talons et se frotta les paumes, faisant craquer ses phalanges.
Qu'est-ce qui t'a retenu ?
Vite, Molly, vite maintenant !
Elle pressa franchement la langue contre ses incisives inférieures.
L'une bougea légèrement, activant ses amplis à micro-canaux. Les salves aléatoires de photons, traversant l'obscurité, furent convertis en paquets d'électrons. Le béton autour d'elle se révélant d'une pâleur spectrale et granuleuse.
« D'accord, mon chou, on se lance. »
Sa cachette se révélait être une espèce de galerie de service. Elle rampa jusqu'à une grille abattante ornementée de cuivre terni. Kez envoyait suffisamment de ses bras et de ses mains pour savoir qu'elle portait à nouveau le collant en polycarbonate. Sous le plastique, il sentait la tension familière du cuir fin étroitement ajusté. Quelque chose était passé sous son bras, dans un harnais ou un étui. Elle se leva, ouvrit la fermeture à glissière de sa combinaison et y glissa la main pour effleurer le plastique quadrillé d'une poignée de pistolet. « Hé, Kez, » fit-elle en prononçant à peine les mots.
« T'écoutes ? Je vais te raconter une histoire. J'ai eu ce garçon une fois.
Eh bien, tu me rappelles un peu. »
Elle se tourna pour examiner le corridor.
Johnny, c'était son nom.
Le couloir bas et voûté était bordé d'une douzaine de vitrines de musées, casiers d'aspect archaïque, en bois brun, à façade vitrée. Elles avaient l'air un peu déplacées en ces lieux, contrastant avec les courbes organiques des parois, comme si on les avait amenées puis alignées ici, en vue de quelque objectif oublié. Les appliques de cuivre patiné soutenait des globes de lumière blanche à des intervalles de 10 mètres. Le sol était inégal, et lorsqu'elle s'engagea dans le corridor, Kez se rendit compte que des centaines de petits tapis et de carpettes y avaient été jetés au hasard. À certains endroits, il y en avait sur 6 épaisseurs. Le sol était devenu un douillet patchwork de laine tissée main. Molly ne prêtait que peu d'attention aux vitrines et à leur contenu, ce qui l'irrita. Il dut se satisfaire de ses regards désintéressés qui lui révélèrent des fragments de poterie, des armes antiques, un objet si densément constellé de clous rouillés qu'il en était méconnaissable, des morceaux effilochés de tapisserie.
« Mon Johnny, tu vois, il était malin. Le gars vraiment flashy. Il avait commencé comme reseller sur Memory Lane, des puces plein la tête et des gens qui payaient pour y planquer des données. » Il avait les yaks sur le dos, la nuit où je l'ai rencontré. Et j'ai réglé son compte à leur assassin. Plus un coup de peau qu'autre chose. Mais je l'ai quand même arrangé. Et après ça, nous deux, ça baignait impec, Kez. Ses lèvres bougeaient à peine. Il la sentait former les mots. Il n'avait pas besoin de l'entendre parler à haute voix. On avait monté un coup avec une couleuvre, si bien qu'on pouvait lire les traces de tout ce qu'il avait pu stocker en mémoire. On a basculé le tout sur bande et commencé à travailler certains clients choisis, des ex-clients. Moi, je jouais la fourmi, le gorille, le chien de garde. J'étais vraiment heureuse.
T'as déjà été heureux, Kez ?
C'était mon mec. On bossait ensemble, en partenaire. J'étais sorti depuis peut-être 2 mois de la maison de poupée quand je l'ai rencontré. Elle marqua une pause, négocia un virage en épingle, puis continua. Encore des vitrines de bois vernis, leurs panneaux d'une couleur qui évoquait pour lui des ailes de cafard. En douceur, synchro parfaite, ça collait bien pour nous. Comme si personne ne pouvait se risquer à nous toucher. D'abord, je les aurais pas laissés faire. Les Yakuza, je suppose qu'ils voulaient toujours faire la peau à mon Johnny. Vu que j'avais tué leur homme. Vu que Johnny les avait brûlés. Et les Yaks, ils peuvent se permettre d'aller si lentement, les salauds, qu'ils attendront des années et des années. Ils te laisseront toute la vie. rien que pour que t'aies plus à perdre quand ils viendront te nettoyer. Une patience d'araignée, des araignées zen.
Ça, je le savais pas à l'époque. Ou si je le savais, je n'imaginais pas que ça puisse s'appliquer à nous. Comme quand on est jeune et qu'on se croit unique.
J'étais jeune, et puis ils sont venus. Juste quand on commençait à se dire qu'on en avait peut-être assez ramassé pour envisager de décrocher, remballer et peut-être se tirer en Europe.
Non pas qu'on ait su ce qu'on serait allé y faire, avec aucun projet devant nous.
Mais on vivait grassement, compte en Suisse en orbite, et une planque pleine de meubles et de joujoux. Ça vous émousse le goût du jeu. Donc, ce premier qu'il nous envoie, c'était un sacré numéro. Des réflexes comme t'as jamais vu, des implants, du style à en remonter à 10 malfrats ordinaires. Mais le second, celui-là, je sais pas. C'était comme un moine, cloné, tueur dans l'âme. Il avait ça dans la peau, la mort. Ce silence, il te filait ça dans un nuage.
Sa voix s'éteignit alors que le corridor bifurquait en 2 escaliers identiques qui descendaient. Elle prit le gauche.
Une fois, j'étais toute gosse, on squattait. C'était du côté de l'Hudson, et ces rats, mecs, c'était des mastards. À cause des produits chimiques qu'ils bouffaient. Aussi gros que moi, et toute la nuit, il y en avait un qui avait gratté sous le plancher du squat. Vers l'aube, quelqu'un amène ce vieux bonhomme, les joues couturées, les yeux tout rouges. Il avait un rouleau de cette espèce de cuir graisseux, le truc où qu'on emballe les outils en acier pour empêcher la rouille. Il l'ouvre, et il y avait dedans ce vieux revolver et 3 balles. Le vieux, il en met une dans le canon, et commence à parcourir le squat de long en large. Nous, on rasait les murs. De long en large, les bras croisés, la tête basse, comme s'il avait oublié le revolver. L'écoutait le rat. Nous, on ne pipait mot. Le vieux fait un pas, le rat avance. Le rat avance, il fait un autre pas, une heure comme ça. Puis il semble se souvenir de son arme. Il vise le sol, sourit et presse la détente. Il la remballe et se barre.
Je suis allé ramper en dessous après. Le rat avait un trou juste entre les 2 yeux.
Elle observait les portes verrouillées qui donnaient sur le corridor à intervalles réguliers. Eh bien, le second, celui qui venait de liquider Johnny, il était comme ce vieux. Pas vieux, mais il était comme ça, il tuait comme ça.
Le corridor s'élargit. L'océan de tapis épais ondulait doucement sous un énorme lustre de cristal dont les pendeloques inférieurs atteignaient presque le niveau du sol.
Les cristaux cliquetèrent lorsque Molly pénétra dans la salle.
« 3e porte gauche !» clignota l'afficheur.
Elle tourna à gauche, évitant l'arbre de cristal renversé.
« Je l'ai vu qu'une seule fois, alors que je rentrais chez nous. Il en sortait. »
On vivait dans une usine reconvertie avec des tas de jeunes venus de Senso Réseau, comme ça.
Déjà, l'endroit était pas mal sûr.
Et j'avais encore renforcé la sécurité avec quelques trucs vraiment sérieux.
Je savais que mon Johnny était là-haut. Mais ce petit mec, il m'accrochait l'œil au moment de sortir.
Oh, on n'a pas échangé un mot. On s'est juste regardé et j'ai compris.
Le petit mec banal, habillé banal, sans fierté, humble, quoi.
Il m'a regardé avant de monter dans un cyclopousse, et j'ai su.
Je suis monté, Johnny était assis sur une chaise, près de la fenêtre, la bouche entrouverte, comme s'il venait de penser à quelque chose à dire.
La porte devant, elle, était vieille. Un panneau, gravé de bois de teck thaïlandais, qui semblait avoir été scié en 2 pour s'adapter à l'embrasure basse.
Une serrure mécanique primitive, munie d'un panneau d'inox, avait été encastrée sous les volutes d'une poignée en forme de dragon.
Elle s'agenouilla, sortit d'une poche intérieure un petit morceau de peau de chamois noir roulé serré, le déroula et choisit un pic fin comme une aiguille.
Jamais trouvé grand monde qui discute beaucoup après ça.
Elle inséra le pic dans la serrure et travailla en silence, se mordillant la lèvre inférieure. Elle semblait se fier uniquement à son toucher.
Ses yeux cessèrent d'accommoder et la porte devint pour Kaise un brouillard de bois blond.
Il écoutait le silence de la salle,
ponctué seulement par le doux cliquetis du chandelier. Des chandelles ? Rien ne collait à Lumiérante. Il se rappela Quête, lui parlant d'un château avec ses bassins et ses nénuphars, et le texte empoulé de trois djennes, récité d'une voix musicale par la tête. Un lieu qui s'était développé de lui-même. Lumiérante respirait une vague odeur de moisie, vaguement parfumée comme une église. Où est-elle, était si Hachepoul ? Il s'était attendu à quelque impeccable ruche, débordant d'une activité disciplinée, mais Molly n'avait vu personne. Son monologue le rendait mal à l'aise. Elle ne s'était jamais autant confiée auparavant. Mis à part son histoire dans la cabine, elle lui avait rarement dit quoi que ce soit qui eût pu simplement indiquer qu'elle avait un passé. Elle ferma les yeux, et il y eut un cliquetis que Kaise ressentit plus tôt qu'il ne l'entendit. Cela lui évoqua les verrous magnétiques sur la porte de sa cabine dans la maison de poupée. La porte s'était ouverte pour lui, alors même qu'il n'avait pas la bonne carte. C'était l'œuvre de Muediver, manipulant la serrure de la même manière qu'il avait manipulé le micro-léger téléguidé et le jardinier robot. Le système de serrure dans la maison de poupée avait constitué une sous-unité du système de sécurité de zone libre. Mais ici, ce simple verrou métallique allait poser un problème véritable à l'IA, nécessitant soit un robot quelconque, soit le recours à un agent humain. Elle ouvrit les yeux, remit le pic dans la peau de chamois qu'elle roula de nouveau avec soin avant de la remettre dans sa poche. « Je suppose que t'es un peu comme lui, » dit-elle. « Tu te crois né pour la passe. Ce dans quoi t'étais embringué quand t'étais à Chiba. Tu croyais que c'était une version simplifiée de ce que tu aurais à faire ailleurs. Manque de bol, ça arrive des fois. Faut revenir aux sources. » Elle se releva, s'étira, se secoua. « Tu sais, je crois bien que celui que la Tessie Hachepoul a envoyé après ce Jimmy, le mec qui avait piqué la tête, ce devait être le même genre que celui que les Yax avaient envoyé pour tuer Johnny. » Elle sortit le flécheur de son étui et régla le canon sur tir automatique. La laideur de la porte frappa Kaise lorsqu'elle tendit la main vers elle. Non pas de la porte en elle-même, qui était superbe, ou avait jadis fait partie d'un ensemble plus superbe encore, mais de la façon dont elle avait été découpée pour se conformer à cette entrée bien particulière. Jusqu'à sa forme qui ne collait pas, un rectangle au milieu des courbes douces du béton lissé. Ils avaient importé ces objets, songea-t-il, puis les avaient adaptés de force. Mais aucun ne s'intégrait vraiment. La porte était comme les étranges vitrines, comme l'énorme arbre de cristal. Puis il se souvint de la dissertation de trois djennes et imagina tous ces équipements qu'il avait fallu hisser par le puits pour incarner quelques plans généraux, un rêve depuis longtemps perdu dans cet effort acharné pour remplir l'espace, pour répliquer quelque image familiale de soi. Il se rappela le nid brisé, les créatures aveugles qui se tortillaient. Molly saisit l'une des pattes avant du dragon moulé et la porte s'ouvrit sans difficulté. La salle derrière était petite, encombrée, à peine plus grande qu'un placard. Des casiers à outils en acier gris étaient posés contre un mur incurvé. Un plafonnier s'était allumé automatiquement. Elle referma la porte derrière elle et se dirigea vers les tiroirs alignés. « Troisième gauche !» pulsait la puce optique. Muediver, outrepassant son affichage horaire, « Cinquième bas !» Mais elle ouvrit d'abord le tiroir du haut. Ce n'était rien qu'un plateau creux, vide. Le deuxième était également vide. Le troisième, qui était plus profond, contenait des cordons de soudure ternes et un petit objet brun qui ressemblait à un os de doigt humain. Le quatrième casier contenait un exemplaire gonflé d'humidité d'un manuel technique périmé, en français et en japonais. Dans le cinquième, derrière le gantelet carapassonné, d'un scaphandre spatial lourd, elle trouva la clé. Elle ressemblait à une pièce de monnaie de cuivre, avec un tube creux brasé dessus. Elle la fit tourner, lentement dans sa main, et vit que l'intérieur du tube se hérissait d'arêtes et de crénelures. Les lettres « Chub » étaient moulées sur une des faces de la pièce. L'autre était lisse.
Il m'a expliqué, murmura-t-elle. Mais divers. Quel jeu d'attente il avait joué durant des années. Il n'avait aucun pouvoir réel à l'époque. Mais il pouvait utiliser les systèmes de surveillance et de sécurité de la villa pour suivre à la trace tout ce qu'il voulait, savoir comment les choses évoluaient, où elles allaient. Il avait vu quelqu'un perdre cette clé 20 ans auparavant, et s'était arrangé pour qu'une autre personne vienne l'abandonner ici. Puis il l'avait tué, le garçon qui l'avait apporté. Le gosse avait 8 ans. Elle referma ses doigts blancs sur la clé, de sorte que personne ne pourrait la retrouver. Elle sortit de la poche ventrale de sa combinaison un rouleau de fil de nylon noir qu'elle passa dans l'orifice circulaire au-dessus du mot « chub ». Après l'avoir noué, elle se suspendit la clé autour du cou. « Ils n'arrêtaient pas de le bassiner avec leur côté démodé, disait-il, tout leur bric-à-brac 19e siècle. C'était le portrait craché du finnois sur l'écran, dans ce trou pour poupée à viandard. Presque comme s'il était réellement le finnois, pour peu que je ne fasse pas gaffe. » L'heure flamboya sur son afficheur, superposé aux armoires d'acier gris. Il disait que s'ils étaient devenus ce qu'ils avaient désiré, ils auraient pu sortir depuis un bon bout de temps. Mais non, ils avaient foiré. Des monstres comme trois de gènes. C'est comme ça qu'il l'appelait. Mais il en parlait comme s'il l'aimait bien. Elle se tourna, ouvrit la porte et sortit, caressant de la main la poignée quadrillée du flécheur dans son étui. Kez décrocha. Le Kuang expert type 11 se développait. « Dixie, tu crois que ce truc va marcher? Tu crois que les ours vont chier dans les bois ?» Le trait-plat les cliquait à travers des strates ondulantes d'arc-en-ciel. Quelque chose se formait au cœur du programme chinois. La densité d'informations satura la trame de la matrice, déclenchant des images hypnagogiques. De pâles triangles, kaléidoscopiques, se centrait sur un point focal noir argenté. Kez regardait les symboles de l'enfance, symboles du mal et de la malchance, culbutés le long de plans translucides. Svastika, crâne et tibia croisés, dés aux faces couvertes d'yeux de serpents flamboyants. S'il fixait directement ce point zéro, aucune image ne se formait. Il lui fallut une douzaine de rapides coups d'œil périphériques avant de le remarquer. Une espèce de squale, luisant comme de l'obsidienne, les miroirs noirs de ses flancs reflétant les vagues lumières lointaines qui n'avaient aucune relation avec la matrice environnante. « Voilà le dard !» annonça le construct. Sitôt que ça colle un pec entre le Kuang et la mémoire centrale de Tessier Ashpool, on lance notre passe dessus. « T'avais raison, Dis. Il y a une sorte de commande manuelle de correction sur la logique câblée qui maintient le contrôle sur Meudiver. » Dans quelle mesure il est contrôlé, ça, ajouta-t-il. Il dit, le construct, il gaffe, pas il, ça, j'arrête pas de te le répéter. C'est un code, un mot qu'il a dit. Il faut que quelqu'un aille le prononcer devant un terminal tordu dans une pièce bien précise, pendant que nous, on s'occupe de ce qui peut nous attendre derrière cette glace. Eh bien, t'as du temps à tuer, gamin, fit le trait-plat. Ce vieux Kuang est lent, mais régulier. Kez se débrancha. Droit dans le regard de Maël Koum. T'es resté mort un moment là-bas, Mac. Ça arrive, dit-il. Je commence à m'y habituer. Te joue avec les ténèbres, Mac. Comme qui dirait que c'est le seul jeu possible dans le coin. Dja, love, Kez, dit Maël Koum, avant de se retourner vers son module radio. Kez fixa les tresses enchevêtrées, les muscles noueux sur les bras noirs de l'homme. Il se rebrancha et cliqua. Molly trottinait le long d'un corridor qui aurait aussi bien pu être celui qu'elle avait déjà parcouru précédemment. Les casiers à portes vitrées avaient désormais disparu, et Kez estima qu'il se dirigeait vers l'extrémité du fuseau. La pesanteur diminuait. Bientôt, elle bondissait en douceur au-dessus d'ondulantes collines de tapis, vagues et lancements dans sa jambe. Le corridor s'étrécit soudain, s'incurva, se dédoubla. Elle prit à droite et se mit à escalader un escalier effroyablement escarpé, la jambe déjà prise de crampes douloureuses. Au-dessus, des faisceaux de câbles couraient,
pendus au plafond, comme autant de ganglions au codage de couleurs. Les murs étaient maculés de taches d'humidité. Elle parvint à un palier triangulaire et s'arrêta pour se masser la jambe. Encore des corridors, étroits, les parois recouvertes de tentures. Ils se scindaient en trois directions. « Gauche !» Elle haussa les épaules. « Tu me laisses regarder, Dak ?»« Gauche !»« Relax, on a le temps !» Elle se dirigea vers le couloir qui partait sur la droite. « Stop ! Recule ! Danger !» Elle hésita. De derrière la porte en chêne entrouverte à l'extrémité du passage, provenait une voix, forte, empâtée, comme celle d'un ivrogne. Kaise estima qu'il pouvait s'agir de Français. Mais c'était trop indistinct. Molly fit un pas, un autre, main glissée dans la combinaison pour effleurer la crosse de son flécheur. Lorsqu'elle pénétra dans le champ de disruption neuronale, ses oreilles se mirent à bourdonner, minuscules tintements de plus en plus aigus qui évoqua pour Kaise le bruit de son flécheur. Elle bascula vers l'avant, muscles striés relâchés, et donna du front contre la porte. Elle se tordit et tomba sur le dos, les yeux ouverts, le regard vague, le souffle coupé. « Qu'est-ce que c'est ?» fit la voix empâtée, « que ce costume ?» Une main tremblante se glissa par l'ouverture de sa combinaison et trouva le flécheur qu'elle sortit. « Viens donc me voir, bel enfant, tout de suite !» Elle se releva lentement, les yeux fixés sur le canon de l'automatique noire. La main de l'homme était tout à fait ferme à présent. Le canon de l'arme semblait relié à sa gorge par un fil tendu, invisible. Il était vieux, très grand, et ses traits rappelaient à Kaise la fille qu'il avait aperçue à la galerie du XXe siècle. Il portait une lourde robe de soie marron, capitonnée aux manchettes et au col. Un pied était nu. L'autre, dans une pantoufle de velours noir décorée d'une tête de renard en or sur la cambrure. Il repoussa Molly dans la chambre. « Doucement, mon chou !» La pièce était vaste, encombrée d'un assortiment d'objets qui n'évoquaient rien pour Kaise. Il vit un rack grillacié de moniteurs Sony démodés, un grand lit de cuivre recouvert de peau de mouton avec des oreillers qui semblait avoir été confectionné à partir du même genre de tissu que les tapis utilisés pour recouvrir le sol des corridors. Les yeux de Molly passèrent d'une énorme console audio-vidéo-téléfunken aux étagères d'antiques enregistrements sur disque, leurs arêtes friables, protégées dans des pochettes de plastique transparent, pour s'arrêter enfin sur un large établi jonché de plaquettes de silicone. Kaise enregistra la présence de la console de cyberspace et des trodes, mais le regard de Molly passa dessus sans s'attarder. « Il serait logique de ma part, dit le vieillard, de vous tuer sur le champ. » Kaise la sentit se raidir, prête à agir. « Mais ce soir, je m'accorde une faiblesse, reprit-il. « Comment vous appelez-vous »« Molly. Moi, c'est Ashpool. » Il se renfonça dans la douceur craquelée d'un immense fauteuil de cuir aux pieds carrés chromés, mais l'arme n'oscilla pas. Il posa son flécheur sur une table en cuivre près du siège, renversant un flacon de plastique empli de pilules rouges. La table était encombrée de flacons, de bouteilles de liqueur, d'enveloppes de plastique souple déchirées qui répandaient des poudres blanches. Kaise remarqua une seringue hypodermique en verre, démodée, et une cuillère ordinaire en inox. « Comment faites-vous pour pleurer, Molly ? Je vois que vos yeux sont obturés, je suis curieux. » Il avait les paupières rougies, le front luisant de sueur. Il était très pâle. « Malade, estima Kaise, ou drogué. « Je ne pleure pas beaucoup. « Mais comment feriez-vous pour pleurer si quelqu'un vous faisait pleurer ?»« Je crache, dit-elle. Les conduits sont déroutés dans ma bouche. » « Alors, vous avez déjà appris une leçon importante pour quelqu'un d'aussi jeune. » Il reposa la main qui tenait le pistolet sur son genou et prit une bouteille sur la table près de lui, sans s'inquiéter de choisir parmi la demi-douzaine d'alcools différents. Il but. Du cognac. Un filet de liqueur goûta du coin de sa bouche. C'est comme ça qu'il faut faire avec les larmes. Il but de nouveau. « Je suis occupé ce soir, Molly. J'ai bâti tout ceci et maintenant je suis occupé. À mourir. Je pourrais repartir par où je suis venu. Sa réponse le fit rire, un crissement aigu. « Vous venez me déranger dans mon suicide ? Et puis vous me demandez tout tranquillement l'autorisation de repartir ? Franchement, vous me surprenez. Une voleuse ? Ça, c'est mes oignons, chef. J'ai que ma peau et j'y tiens. J'ai simplement envie de sortir d'ici entière. Vous êtes une fille bien grossière. Ici, les suicides s'organisent avec une certaine dose de décorum. C'est ce que je suis en train de faire, comprenez-vous ? Mais peut-être, après tout, que je vais vous emmener avec moi cette nuit en enfer. Ce serait très égyptien de ma part. » Il but encore. « Allez, venez ici. » Il tendit la bouteille, la main tremblante. « Buvez. » Elle hocha la tête. « Il n'est pas empoisonné. » Il reposa néanmoins le cognac sur la table. « Asseyez-vous. Par terre. On va causer. »« De quoi ?» Elle s'assit. Caise sentit les lames bouger très légèrement sous ses ongles. « Ce qui nous passe par la tête, ma tête, c'est ma soirée. Les torses de la mémoire centrale m'ont réveillé, il y a 20 heures. Quelque chose était en train de se tramer, disait-il, et en avait besoin de moi. C'était vous le quelque chose, Molly ? Sans doute n'avait-il pas besoin de moi pour s'occuper de vous, non. Ce devait être autre chose. Mais j'étais en plein rêve, voyez-vous. Depuis 30 ans. Vous n'étiez même pas né la dernière fois que je me suis allongé pour dormir. Il nous avait dit que nous ne rêverions pas dans ce froid. Il nous avait dit que nous ne ressentirions jamais le froid non plus. Folie, Molly. Mensonge. Bien sûr que j'ai rêvé. Le froid laisse pénétrer l'extérieur. Toute la nuit, j'ai dû bâtir ceci pour nous en dissimuler. Rien qu'une goutte, au début. Un grain de nuit qui s'insinuait, attiré par le froid. Mais d'autres suivaient, remplissant ma tête, de même que la pluie emplit un bassin vide. Ils appellent ça des nénuphars, je me souviens. Les bassins étaient en terre cuite, des bonnes d'enfants tout en chrome, comme leurs jambes clignotaient dans les jardins au couchant. Je suis âgé, Molly, plus de 200 ans, si vous comptez le froid. Le froid. Le canon du pistolet se redressa soudain tremblant. Dans les cuisses de Molly, les tendons étaient à présent raidis comme des câbles. « Le gel peut vous brûler, » observa-t-elle d'une voix prudente. « Rien ne brûle ici, » dit-il avec impatience, en rabaissant l'arme. Ses rares mouvements étaient de plus en plus sclérosés. Sa tête se mit à osciller. Il lui fallut un effort pour l'immobiliser. « Rien ne brûle. Ça me revient maintenant. » Les torts m'ont dit que nos intelligences étaient folles. Et tous ces milliards qu'on a payés il y a si longtemps. Quand l'intelligence artificielle n'était encore qu'une idée brillante. J'ai dit aux torts que j'allais m'en occuper. Ça tombait mal, franchement. Avec 8 gens descendus à Melbourne. Et rien que notre gentille 3 Jen pour garder la boutique. Ou bien ça ne pouvait pas mieux tomber, peut-être. Qui sait, Molly ? Le pistolet s'éleva de nouveau. C'est qu'il y a de drôles de choses qui se trament maintenant à la villa lumiérante. Patron, lui demanda-t-elle, connaissez-vous Muet d'Hiver ? Un nom, oui. Un nom prestigieux, peut-être. Un seigneur des enfers, en tout cas. Dans le temps, chère Molly, j'en ai connu des seigneurs. Et plus d'une lady. Eh bien, mais même une reine d'Espagne, une fois dans ce lit, justement. Mais je m'égare. Il eut une toux grasse, secouant le canon du pistolet dans ses convulsions. Il cracha sur le tapis, tout près de son pied nu. « Ce que je peux m'égarer, malgré le froid. Mais ce sera bientôt fini. J'ai commandé le dégel d'une gêne pour mon réveil. Bizarre de coucher tous les 20 ou 30 ans avec ce qui correspond légalement à votre propre fille. » Son regard glissa derrière elle jusqu'au rack de moniteurs éteints. Il parut frissonner. « Les yeux de Marie-France, » dit-il doucement, et il sourit. « Nous entraînons le cerveau à devenir allergique à certains de ses propres neurotransmetteurs, avec pour conséquence une imitation singulièrement modulable de l'autisme. » Sa tête oscilla latéralement, se redressa. « Je crois savoir que l'effet est désormais plus facilement obtenu à l'aide d'un micro-circuit implanté. » Le pistolet lui glissa des doigts, rebondit sur le tapis. Les rêves se développent comme de la glace lente. Il avait le visage teinté de bleu. Sa tête retomba sur le cuir accueillant et il se mit à ronfler. Elle récupéra l'arme, puis arpenta la pièce, l'automatique d'Ashpool dans la main. Une grande couverture ou une courte pointe était pliée en tas près du lit, dans une grande mare de sang figé, épaisse et luisante sur les tapis tissés. Rabattant un coin de la couverture, elle découvrit le corps d'une fille, omoplate blanche vernie de sang. On lui avait tranché la gorge. La lame triangulaire d'une espèce de grattoir étincelait dans la mare sombre à côté d'elle. Molly s'agenouilla, prenant soin d'éviter le sang, et tourna le visage de la fille à la lumière, le visage que Kez avait aperçu au restaurant. Il y eut un cliquetis, au tréfonds même des choses, et le monde se figea. La transmission SimSteam de Molly était devenue un plan fixe, les doigts immobiles sur la joue de la fille. L'arrêt sur image dura 3 secondes, puis le visage de la défunte se modifia, devint celui de Linda Lee. Nouveau cliquetis, et la pièce se brouilla. Molly était debout, baissant les yeux sur un disque laser doré près d'une petite console posée sur le dessus de marbre d'une table de nuit. Un ruban de fibre optique courait comme un fouet depuis la console jusqu'à une prise à la base du cou mince de la fille. « J'ai ton numéro, mon salaud !» dit Kez, sentant bouger ses propres lèvres quelque part très loin. Il savait que Muediver avait altéré la transmission. Molly n'avait pas vu le visage de la fille onduler comme de la fumée pour prendre le masque mortuaire de Linda. Molly se retourna. Elle traversa la pièce en direction du fauteuil d'Ashpool. La respiration de l'homme était lente, irrégulière. Elle examina l'amoncellement de drogue et d'alcool. Elle reposa le pistolet, récupéra son flécheur, régla le canon sur un seul coup et, très soigneusement, tira un trait de toxine en plein milieu de la paupière gauche fermée. L'homme eut un unique soubresaut, souffle bloqué au milieu d'une inspiration. L'autre œil s'ouvrit lentement, insondable et noir. Il était toujours ouvert lorsqu'elle pivota pour sortir de la pièce.